Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La semaine dernière, à partir de l'exemple de l'intendant infidèle, nous avons parlé de la paresse. Cette paresse qui n'est pas une inactivité, cette paresse qui va mener cet intendant infidèle à la déchéance et l'entraîner dans toutes sortes de vices, notamment l'orgueil, le mensonge, la fraude, la manipulation. Et évidemment, nous avons vu les remèdes, l'humilité, le sens de l'effort et du devoir. Aujourd'hui, je voudrais continuer à examiner cette question de la paresse, mais spécialement par rapport à nos sociétés contemporaines. Le monde contemporain paraît très actif. On n'arrête pas, on court partout, on valorise la performance, et en réalité, l'homme contemporain est paresseux. L'homme contemporain n'est pas inactif. Il est très occupé, très sollicité, constamment connecté, et néanmoins il est paresseux parce que il a tendance à fuir le devoir. Il a tendance à fuir d'abord le réel. Donc voyons un peu les différentes manifestations dans ce monde contemporain de la paresse. La première manifestation et la première caractéristique qui est extrêmement dangereuse, notamment dans le domaine de l'éducation, c'est le refus de la contrariété, le refus de la difficulté. Notre civilisation a tendance à supprimer, et d'ailleurs en raison des progrès technologiques, on a beaucoup moins de délais, beaucoup moins d'efforts à fournir pour faire tel ou tel travail. Et par conséquent, les moindres difficultés sont mal perçues, paraissent même anormales. Ajoutez à cela une autre culture, une contre-culture de l'éducation, une déséducation, qui consiste à mettre en avant le laisser-aller et surtout le fait d'explorer tout seul, n'est-ce pas, de suivre ses émotions, etc. Tout cela, bien sûr, doit être banni du langage chrétien et de la pratique chrétienne. Donc, on va fuir toute contrariété. Dès qu'il y a une difficulté, c'est la fuite. C'est quasi systématique dans nos sociétés. On fuit la discussion quand il y a des difficultés de relation entre les personnes. On fuit la recherche de solutions quand il y a des difficultés. Et on va s'appuyer sur d'autres outils ou sur ceux qui sont d'une génération un peu plus ancienne et qui, eux, ont été éduqués plus ou moins avec la difficulté, avec les efforts nécessaires. Mais, on va dire, depuis 25-30 ans, malheureusement, ce n'est plus le cas. Et, qu'on le veuille ou non, même si on est conscient de cela, les enfants, si on les met à l'école, eh bien, ils vont être pris dans ce mouvement de facilité. On refuse les évaluations. Il faut qu'il y ait 99% de jeunes gens qui réussissent, n'est-ce pas, leur baccalauréat, leurs examens. Comment on fait pour que ce soit possible? On rabaisse tous les niveaux de difficulté. Il y a des signes, même dans les divertissements. Pour ceux qui jouaient à des jeux vidéo, ben quand on échouait à un niveau, il fallait tout recommencer. Aujourd'hui, on fait des sauvegardes, on va tricher, chercher des codes à droite à gauche ou des tutos, n'est-ce pas, pour savoir ce qu'il faut faire. À l'époque, tout ça n'existait pas. Il fallait recommencer et recommencer et recommencer encore et encore pour pouvoir atteindre le niveau suivant. Je vous dis ça parce que c'est symptomatique. C'est symptomatique et ça permettait malgré tout une certaine éducation à l'effort, à la persévérance, à l'échec. Parce que l'échec est important, même dans l'éducation et dans notre vie. L'échec est important parce que ça nous permet d'en tirer des leçons, parce que ça exerce notre sens de l'effort, de la persévérance. Donc, si on refuse les contrariétés, si on refuse les difficultés, si à chaque contrariété et difficulté, on prend la fuite, on est en fait dans une attitude de paresse. Il faut en être conscient, et pour nous-mêmes, et pour la société, et notamment dans l'éducation des enfants. Mais ça vaut d'abord pour nous, parce que on ne pourra pas éduquer correctement les enfants si nous-mêmes, nous n'avons pas ce sens de l'effort et si nous n'avons pas cette attitude d'essayer d'affronter les contrariétés, les difficultés, de les surmonter d'une manière ou d'une autre plutôt que de les fuir. Donc, c'est la première caractéristique. Tout ce qui demande un effort est considéré maintenant pratiquement comme anormal. À chaque fois que nous donnons des exigences aux personnes, cela paraît oppressant, n'est-ce pas ? Ah, je me sens oppressé parce que je ne peux pas garer ma voiture n'importe où, etc. D'ailleurs, soit dit en passant, pour le coup, parenthèse, il ne faut pas garer sa voiture devant les portails. Il y a une pancarte, d'ailleurs, interdit de stationner. Il ne faut pas. C'est une question aussi de non seulement d'obéir aux pancartes que nous mettons, mais c'est aussi une question de sécurité. Si les pompiers ou autres doivent intervenir rapidement, il faut que nous puissions ouvrir rapidement, le plus rapidement possible, sans qu'il y ait déplacé une, deux voitures, trois voitures. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on a des exigences, on est oppressant ou bien mal organisé. Pour la paresse contemporaine, c'est quoi ? Ben, c'est qu'il faut avoir du tout cuit tout le temps. Uber Eats, on a faim, on commande. Moi, ceci, et tout est quasiment immédiat. Donc, il faut sortir de cette mentalité et se rendre compte que une vraie vie, et surtout une vraie vie chrétienne, demande des efforts et implique des contrariétés, des difficultés, des échecs. Deuxièmement, la paresse au niveau de l'attention. Alors, on s'en plaint aussi au niveau des enfants, n'est-ce pas ? Il est difficile de les rendre attentifs, ce serait de la faute des écrans, la faute de ceci et de cela. Bon, moi aussi j'ai connu certains écrans dans ma jeunesse, ça ne nous empêchait pas d'être attentifs quand il le fallait, notamment à l'école. C'est surtout une question de discipline, c'est-à-dire que à l'école, on travaille, quand on est en récréation, on est en récréation, quand on doit faire ceci, on doit faire ceci, tout simplement. Donc la paresse de l'attention est une vraie paresse, c'est pas une incapacité des enfants. Il ne faut pas nous faire croire ça. C'est pas une incapacité. L'être humain, la nature humaine, elle est pas différente aujourd'hui d'il y a 40, 50 ans, 100 ans, 120 ans, 140 ans. Non. C'est une question, là, pour le coup, de société. Et la société, c'est nous qui la faisons. Donc l'enjeu est de savoir, est-ce que nous voulons des enfants paresseux, ou est-ce que nous voulons des enfants normaux ? Oui, parce que le normal, il n'est pas paresseux. Le normal, il est vertueux et chrétien. Donc, la paresse de l'attention, c'est une excuse. Le fait que les enfants soient disent ceci, disent cela, disent machin... Nous, on n'entendait pas ces trucs-là avant, alors on va me dire « Oui, mais parce que on faisait pas les diagnostics avant, etc. » Ok, d'accord. Mais si derrière ces 10, vous mettez... on est 10 tout maintenant. Hein. Dès qu'il y a un problème, on vous en met dans une catégorie pathologique. Si on met une pathologie à chaque fois derrière toutes ces difficultés, une fois de plus, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est mal, je suis malade. Donc, voilà. Alors que, il y a des efforts à fournir, tout simplement. Ben, si on a des efforts pour la lecture, ben, il faut faire les efforts pour la lecture. Et autrefois, il se faisait à l'école, il se faisait en classe. Il n'y avait pas besoin de spécialistes de ceci ou de cela. On va dire, oui, mais c'est un progrès. Non, c'est pas un progrès. C'est pas un progrès de pathologiser absolument tout. Et ce n'est pas un progrès. Pourquoi? Eh bien, parce qu'en réalité, les enfants, on ne leur fait plus fournir les efforts nécessaires. Il ne s'agit pas de stigmatiser, d'être dur, etc. C'est pas ça qu'on va préconiser, bien entendu. Mais là, on exagère carrément dans l'autre sens. Et donc, les problèmes de l'attention, soit qui sont HPI ou moins PI ou je sais pas quoi, peu importe. Stop, sortons de ces catégories. Ce que nous sommes tous, ce sont des êtres humains avec une intelligence, une volonté et avec des vertus à pratiquer. C'est ça l'éducation. Si on commence à prendre toutes les catégories de la psychologie moderne, eh bien on finit avec une pensée moderne. Et cette pensée moderne n'est pas chrétienne. Elle ne mène pas à la vertu, elle ne mène pas à la vie chrétienne. Donc, les difficultés d'attention, eh bien, ça se règle par des efforts d'attention. C'est bête, mais c'est comme ça. C'est aussi simple comme solution. Ah oui, les enfants, ils sont pas capables d'être attentifs tant de temps. Ben, il faut les rendre attentifs. Et si on refuse de leur faire faire des efforts pendant un temps donné, sur un point donné, si on les fait passer d'une activité à une autre toutes les 5 minutes, 10 minutes, évidemment qu'on ne favorise pas l'attention, mais c'est pas une question d'écran, là. C'est une question de société. Il en est de même pour nous autres. C'est beaucoup plus facile de scroller, excusez-moi le jargon, mais normalement la plupart d'entre vous le connaît, hein. Connaît le geste, c'est plus facile de scroller que de s'attacher à lire un texte. C'est plus facile de passer d'une vidéo à une autre sur telle ou telle plateforme que de faire un effort de lecture. On le sait. Combien de personnes m'ont déjà dit « Oui, vous faites des articles, c'est bien, mais je les lis pas. Il faudrait mieux faire une vidéo. » Donc maintenant, certains prêtres font des vidéos, font des shorts, petites vidéos courtes, je traduis, n'est-ce pas? Je dis pas que c'est mal, hein. Ça peut être très bien pour éclairer telle ou telle question, mais ce serait un problème si on ne s'instruit chrétiennement que par ces moyens-là. Donc, j'assume d'être has-been sur ces questions-là, has-been rétrograde, si vous voulez, sur ces questions-là, pour une bonne raison, parce que j'estime que certains sujets demandent plutôt un écrit avec des références, et parce que je pense que c'est propice à tout le monde de faire cet effort, justement, de prendre le temps de s'arrêter et de lire. Et si on a du mal à comprendre, ben on s'arrête, on relit la phrase et on essaye de comprendre. Au lieu de consommer de la vidéo, etc., où finalement on comprend rien, on assimile rien. Donc défaut d'attention pour les adultes, il est là aussi. Et donc là, effectivement, les écrans, on va dire, ont leur responsabilité, mais pas en tant qu'écran. C'est en tant que médias qui sont essentiellement visuels au lieu d'être d'abord intellectuels. Et c'est la troisième forme de, pardon, troisième forme de paresse, la paresse intellectuelle. La paresse intellectuelle, avec cette multiplication de médias, d'informations, etc., eh bien, ça ne va pas aider, en fait, la pensée, la réflexion. Il est possible de consulter continuellement des commentaires, des vidéos, des résumés, mais jamais on ne lit une œuvre entière. Jamais on examine des preuves. Jamais on ne définit les termes précisément. On parle de tas de choses, mais jamais ça n'est défini. On ne distingue pas les faits des interprétations. Etc., etc. Donc, vous voyez que là, la paresse intellectuelle, eh bien, elle consiste à vouloir une opinion sans, ou une vérité, sans supporter le travail nécessaire pour juger. Encore une fois, il y a un refus du travail, il y a un refus de l'effort. C'est beaucoup plus facile d'user des slogans, on a toujours entendu dire. Combien de fois je l'ai entendu dire, pour le coup. La répétition des positions d'un groupe. Eh oui, il faut s'en méfier aussi. Pourquoi ? Eh bien parce que là derrière, parfois, il y a un manque de réflexion. La disqualification préalable des objections. On s'en débarrasse immédiatement. Je vous en parlais il y a 15 jours hein, sur toutes les questions relatives à l'autorité et à la fraternité Saint-Pie-X. Donc, la paresse intellectuelle, elle doit être dénoncée. C'est beaucoup plus facile, je vous donne un simple exemple, c'est beaucoup plus facile de se débarrasser du Novus Ordo Missae, la nouvelle messe. C'est beaucoup plus facile de se débarrasser de la question profonde des réformes, notamment de la Semaine Sainte par le pape Pie XII, et réformes liturgiques, d'ailleurs le pape Pie XII n'a pas réformé que cela. C'est beaucoup plus facile de s'en débarrasser en disant « c'est l'œuvre de Bounini ». Et Bounini, c'était un franc-maçon. De sorte que 40, 50 ans après, dans nos milieux, tout le monde répète, par exemple, qu'il était franc-maçon. On ne cherche plus, on ne réfléchit plus. La nouvelle messe, c'est l'œuvre d'un franc-maçon, c'est pour ça qu'elle est mauvaise. Facile. C'est de la paresse intellectuelle. Et quand quelqu'un, quand on essaye de faire une recherche et les gens nous méprisent et se débarrassent de notre travail d'un revers de main en disant « c'est l'opinion du Père Mercier ». Vous pouvez, j'ai cité sur ce sujet, une quantité de livres, d'ouvrages de référence que tout le monde peut vérifier, mais c'est qu'une opinion. Non, c'est pas une opinion. Donc je vous invite à lire hein, notamment sur ce sujet, pour moi, il n'est pas prouvé que Bounini était franc-maçon. Et ça ne veut pas dire que la nouvelle messe est bien, hein. c'est pas la question. Justement, le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là. Le problème, il est intrinsèquement quel travail a été fait, qu'est-ce qui a été produit, comment il a été produit, et surtout la confrontation avec la théologie catholique sur la messe, sur la liturgie. Et donc, on se débarrasse aussi des réformes de Pie XII. Oh, la Semaine Sainte de Bounini, pareil. Donc pour beaucoup... Ah ben, Bounini, oui, il était dans les réformes de Pie XII, donc c'est lui, c'est un franc-maçon. Sauf que, pour ceux qui se renseignent, théoriquement, il n'était franc-maçon qu'à partir de 63, donc après les réformes de Pie XII. Mais enfin, bon, cette date, il n'y a aucun document qui permette de justifier. Mais c'est facile, sauf que Bounini, dans les réformes de Pie XII, il n'y est pour pas grand-chose. En réalité, il était dans la commission effectivement, mais comme je l'ai montré, il intervenait très peu. Ça, on a tous les documents, tout le monde peut vérifier. Mais c'est plus facile. Voilà, paresse intellectuelle. Et la paresse intellectuelle, elle est particulièrement grave. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que dans l'organisme spirituel, psychologique, humain, ce qu'il y a en premier lieu, c'est l'intelligence. Ensuite, la volonté. Ensuite, la sensibilité. C'est l'intelligence éclairée par la foi qui va nous donner, nous dire ce qui est bien, ce qu'il faut faire, et c'est à la volonté après de le faire, et c'est à la volonté, eh bien, de diriger les facultés sensibles. Donc, si on atteint l'intelligence par la paresse intellectuelle, eh bien, on va en même temps atteindre tout le reste de l'édifice spirituel et psychologique humain. Donc la paresse, je vous le disais déjà la semaine dernière, ça paraît anodin, mais en réalité, c'est pas si anodin que ça. Et c'est une caractéristique aussi de notre époque. Donc faisons attention à la paresse intellectuelle et faisons les efforts nécessaires, notamment, je le dis et je le répète, je suis peu suivi, j'en suis conscient, mais lisez, faites des lectures, des vraies lectures, des lectures attentives, des lectures de choses sérieuses, et méfiez-vous des slogans qu'on balance, alors qu'il y a des vraies recherches qui soit ont été déjà effectuées, soit à effectuer. La paresse intellectuelle mène à la paresse morale, donc la paresse dans la volonté. Si on n'a pas travaillé sur notre intelligence pour acquérir la vérité, ça veut dire que notre façon d'acquérir ce qui va se trouver dans notre intelligence est faible. Donc notre assentiment ne sera pas suffisamment solide, ou bien il sera volontariste. Il doit en être ainsi. Puisque la nouvelle messe est mauvaise, ceux qui l'ont fait sont mauvais, des suppôts de Satan, des francs-maçons, etc., etc. Donc au lieu de chercher la vérité, on a un point de vue a priori et on le justifie par tous les moyens. On fait passer en réalité la volonté avant l'intelligence. Là, c'est un mauvais usage de la volonté. Eh bien, cela va déterminer un mauvais comportement de notre volonté. Donc, la paresse morale qui va exalter dans notre société contemporaine la liberté de choix, donc se méfier aussi de tout ce qui est engagement. Donc, on va insister beaucoup sur effectivement la liberté. On veut garder toutes les possibilités ouvertes. On ne veut pas se lier définitivement. Pourquoi beaucoup retardent le mariage, ne veulent pas s'engager véritablement? C'est un défaut de volonté, en fait. On ne veut pas promettre, on ne veut pas assumer une responsabilité durable. On doit pouvoir partir dès que la situation est difficile. Voilà pourquoi on prône aussi le divorce, n'est-ce pas ? Encore une fois, fuite de la difficulté. Et on fait passer ça pour de la liberté. Sauf que c'est encore une fois un mauvais point de vue. On s'aperçoit que c'est une fuite des responsabilités. Donc on a une indétermination aussi qui peut paraître de la prudence, de l'authenticité, mais souvent ce n'est que de la paresse morale. On refuse l'engagement, on refuse le travail intérieur que nécessite l'engagement. Parce que lorsqu'on s'engage dans un travail, dans une entreprise, lorsqu'on s'engage dans un état de vie, donc le mariage, dans un état de vie comme le sacerdoce, comme la vie religieuse, eh bien, il faut être conscient que c'est un engagement total et pour toute la vie. Et ça, on n'y est pas prêt, parce que ça demande des efforts. Donc c'est aussi une conséquence de tout ce qu'on a vu auparavant. Et ça demande des efforts, non seulement à un moment donné, ça demande des efforts toute la vie. Toute la vie, on doit rester fidèle à son engagement d'époux et d'épouse, à son engagement de prêtre, à son engagement de religieux ou de religieuse. Pourquoi il y a un déficit de vocation ? C'est simple. Il commence dans les familles, il commence dans la société, parce qu'il y a un refus d'engagement. Vous imaginez qu'à l'époque de Saint-Benoît, les postulants, ils les laissent, je dirais, macérer à la porte pendant plusieurs jours, dehors. Il valait mieux se présenter en été qu'en hiver, quoique, hein, avec les fortes chaleurs, on va dire printemps ou automne. Ils les laissent macérer devant la porte du monastère. Il les insulte, il le dit, des injures. C'est explicite, c'est dans la règle. Chapitre 58. Aujourd'hui, dès qu'on pose une question à quelqu'un qui a l'idée de rentrer, c'est presque un crime de lèse-majesté. Il faudrait même essayer d'agripper tel ou tel qu'on pense avoir la vocation. C'est totalement contraire à l'esprit ancien. Ensuite, il n'y a pas de postulat à l'époque, aujourd'hui on met 6 mois de postulat, et un noviciat qui dure 1 an à peine. Et après il s'engage définitivement, il n'y a pas de vœux temporaires pendant 1 an, pendant 3 ans, machin, etc. Vous voyez où on est descendu, il faut vous rendre compte. On croit que c'était des barbares, des sauvages, des machins, non. C'était des gens qui avaient du caractère, qui avaient une volonté, qui avaient une intelligence et qui avaient le sens de l'engagement. C'est nous les barbares, c'est nous les dégénérés. Il faut bien le comprendre. On est obligé un peu de faire avec, mais il faut se rendre compte que c'est pas la normalité chrétienne. Que la normalité, elle est dans le sens de l'effort et dans le sens de l'engagement et dans la stabilité dans les engagements. Ça se voit aussi au niveau de la vie chrétienne, de la vie chrétienne de tous les jours. Ah oui, je prends la résolution de ceci ou cela, de dire mon chapelet tous les jours, de faire mes prières ou autre, de lutter, et puis ça dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps parce que on ne veut pas exercer notre volonté. On ne le veut pas, je le répète, hein, parce que notre volonté, on l'exerce à bien d'autres choses. C'est comme l'intendant infidèle de la semaine dernière. Travailler, non, etc. Non, ça c'est demander pardon, essayer de réparer, non. Mais alors par contre, pour truquer les comptes, et ben là, il a de la volonté, hein, il est bien présent. Il est là, on est pareil. On a de la volonté pour un tas de trucs, mais pas pour les choses qui sont difficiles, qui demandent un engagement, et notamment un engagement dans le temps. Donc vous voyez que, en fait, on est radicalement paresseux. Ça nous mène à notre troisième élément de la psychologie humaine. Pardon d'être un peu long, mais effectivement, c'est un sujet important. C'est la paresse affective. Allez, parce qu'on a atteint l'intelligence, on a atteint la volonté, et bien là derrière, qu'est-ce qui va prendre le dessus ? C'est la sensibilité. Et c'est tout le discours éducatif, etc., sur les émotions. Il faut connaître nos émotions, il faut écouter nos émotions, écouter notre cœur. Tout le blabla dégoulinant qu'on peut entendre, voir constamment, et qu'on sert aussi même aux enfants, dans des soi-disant films d'animation, tout ça. Sauf que c'est mauvais. C'est mauvais parce que ce n'est pas une vision chrétienne, et même simplement réaliste de la psychologie. Et donc, par conséquent, on les entraîne à connaître leurs émotions et surtout à suivre leurs émotions, à se laisser aller à leurs émotions. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'on ne fait rien tant qu'on ne se sent pas prêt. Je ne me sens pas de faire ceci. Je ne me sens pas de faire cela. Non, je ne le fais pas avec cœur, donc il vaut mieux que je ne le fasse pas. Je ne me plais pas dans mon travail, donc il vaut mieux que je change. Je ne m'épanouis pas dans ma famille, donc il faut que je divorce. Combien de fois on nous sert ce discours aujourd'hui? Combien de fois? Donc, on va agir seulement quand on éprouve de la motivation. Donc, ce sont des pics d'activité. Voilà, je suis motivé. De l'enthousiasme, de la paix sensible, l'assurance de réussir, n'est-ce pas? Le sentiment d'être en accord avec soi-même. Tout cela, bien évidemment, est aussi une forme de paresse. Pourquoi? Eh bien, parce que notre partie sensible, c'est pas elle qui doit diriger notre vie. Elle doit être dirigée, rectifiée, parce que il y a les conséquences du péché originel dans cette sensibilité. Et la sensibilité, ce ne sont pas des émotions, ce sont des passions. Et le terme est important dans son étymologie, parce que passion, ça veut dire subir. Donc nos passions, en fait, ce sont les réactions de notre corps et de notre âme à tel ou tel événement. Donc, de soi, si vous voulez, ces réactions, elles doivent être redirigées par l'intelligence et la volonté pour devenir bonnes ou pour éviter d'être mauvaises. Si on les met en avant et que on doit suivre ces émotions, eh ben alors on peut arriver absolument à tout et n'importe quoi. D'ailleurs, derrière cette idée de suivre ses émotions, on a en dessous les idées qu'on retrouve dans la psychanalyse de Freud et ce fameux « ça » inconscient qui doit diriger en fait notre vie et qu'il faut rendre conscient, donc on conscientise nos émotions et après on laisse aller ces émotions, c'est ça qui nous libère. Et à chaque fois qu'on va essayer de maîtriser ses émotions, on cause soi-disant des névroses. Donc il faut sortir de ce schéma. Parce que ce schéma, il nous est imposé dans toute la société. Donc qu'on le veuille ou non, si on ne rectifie pas nos idées, si nous on ne rectifie pas nos pensées, on rentre dans ce schéma. Et si on rentre dans ce schéma, c'est dans un schéma en fait de paresse. Et cette paresse va mener à la paresse spirituelle, la fameuse acédie. Pourquoi? Parce qu'au niveau spirituel, on est paresseux intellectuellement, on ne fait pas d'efforts, c'est plus facile de se gaver de vidéos de ceci ou de cela et de passer d'une vidéo à une autre plutôt que de faire une lecture suivie et sérieuse, avec réflexion. À chaque fois qu'on ne comprend pas un paragraphe ou une phrase, on passe à autre chose au lieu de chercher à comprendre. Et notre volonté, quand il y a une difficulté dans notre vie spirituelle ou une nécessité d'un effort constant dans le temps, bien on s'arrête, on ne le fait pas, on suit ses sentiments, tout cela s'amène à l'acédie, c'est-à-dire à la paresse spirituelle. Donc la vie avec Dieu, à un moment donné, va devenir pesante, on va refuser les efforts. La prière va sembler inutile. Bah oui, on n'arrive plus à rien. On n'arrive plus à rien. Et donc, on va accuser la prière. Parce qu'on n'obtient pas les grâces nécessaires. Sauf que le problème, il vient pas de Dieu. Le problème, il vient de nous. Mais c'est beaucoup plus facile de le mettre sur un autre. Encore une fois, c'est de la fuite de responsabilité, c'est de la paresse. Donc le combat contre soi, c'est privé de sens puisqu'on n'y arrive pas. On retombe toujours, par exemple, dans les mêmes péchés. Mais l'explication, c'est pas que Dieu vous manque, C'est que vous, vous manquez à Dieu, et c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut faire, c'est-à-dire exercer votre volonté avec l'aide de la grâce de Dieu. Et donc, on a cette paresse vraiment spirituelle que les anciens appelaient l'acédie. Ça mène à quoi? Si on veut institutionnaliser l'acédie, c'est la religion moderniste. Et on peut se faire toucher. Même si on ne l'est pas intellectuellement directement, on peut l'être au niveau spirituel. Une religion sans combat. Voilà. On ne se bat pas avec les autres, chacun ses opinions, etc. On cherche une foi qui rassure, qui console, mais pas d'exigence véritable. Une religion, alors ça c'est l'autre pendant, une religion par contre purement intellectuelle. Ah, dans nos milieux traditionnalistes, on a aussi cette tendance. On connaît tout de la foi, du concile de Trente, de ceci, de cela, mais alors dans la pratique, il n'y a rien. Il n'y a pas de vertu chrétienne ou quasiment pas. Il y a une vie de prière minimaliste, etc. Mais on est convaincu intellectuellement, tout va bien. Là aussi, c'est aussi une forme de paresse. On se cache derrière notre assurance d'être dans la vérité, et on est assuré d'être dans la vérité hein, quand on suit la foi catholique et toutes ses conséquences, pour finalement ne pas pratiquer véritablement la religion. Donc là aussi, religion purement intellectuelle, il faut s'en méfier. Il y aura et une tentation aussi de paresse. Religion sentimentale, ça c'est le modernisme en plein. Hein, on recherche des expériences, des émotions, des ambiances, et puis on abandonne lorsque il n'y a plus de consolation. Mais là aussi, attention, quand on se dit « Ah ben je vais à la messe le dimanche parce que ça me fait du bien », ah, que ça vous fasse du bien, j'en ai aucun doute, et c'est normal. Mais le premier motif pour lequel on doit aller à la messe, c'est parce que c'est notre devoir de religion vis-à-vis de Dieu. Et il faut revenir sans cesse, même si on a des consolations, même si effectivement ça nous fait du bien et c'est normal. Revenons à chaque fois à notre sens du devoir. Je vais à la messe non pas parce que ça me fait du bien, parce que si à un moment donné vous n'êtes plus dans la consolation spirituelle, si c'est plus difficile, bon, je vais plus à la messe. Je ne ressens plus le besoin d'aller à la messe. Je ressens pas le besoin de prier. Alors là, voilà, on nage en plein modernisme absolu en fait là. Donc voilà, mes bien chers frères, un petit panorama avec les éléments les plus importants de cette paresse telle qu'elle s'exprime aujourd'hui dans notre monde contemporain. Et c'est vrai que on en parle peu. On va parler de différents éléments, etc. Et on ne va pas dénoncer ce mal en tant que tel, la paresse. Par conséquent, bien, il faut la dénoncer, il faut en être conscient et il faut appliquer les remèdes. Les remèdes, je vous les ai donnés, spécialement la semaine dernière, bien sûr, l'humilité, le sens de l'effort, le sens du devoir. Ce sont les remèdes principaux face à la paresse. On ne fait pas les choses parce que ça nous plaît, parce que c'est facile, parce qu'on y trouve de la consolation, on fait les choses par sens du devoir, en acceptant les efforts et les difficultés qu'il y a derrière ce devoir. Ça veut pas dire que on ne pourra pas trouver de plaisir ou de consolation. C'est même très bien si on en trouve. Moi, ça ne me pose aucun problème, et ça ne pose aucun problème aux chrétiens de trouver du plaisir ou de la consolation dans la prière, dans les efforts spirituels, et puis même dans le travail. Si ça vous plaît, votre travail, tant mieux. Il ne s'agit pas de prendre un travail exprès qui ne nous plaît pas par ascèse spirituelle. Il ne s'agit pas de cela, hein, attention. Par contre, même dans ces choses qui, à un moment donné, nous paraissent plus faciles, il faut faire attention au motif pour lequel nous le faisons. Le motif, ça ne doit jamais être la facilité et la consolation. Le premier motif, ça doit être le sens du devoir. Et donc l'humilité avec l'acceptation des efforts nécessaires. Par conséquent, de façon, on va dire, plus pratico-pratique, si on veut lutter contre la paresse généralisée dans notre monde, eh bien, il faut se donner une règle de vie chrétienne chaque jour. Une règle de vie chrétienne qui est simplement fondée sur les devoirs chrétiens et les devoirs d'État. Chaque jour, les devoirs chrétiens, ce sont les devoirs notamment de religion, devoir de prier Dieu, les devoirs, bien sûr, de... les devoirs d'État font partie du devoir de chrétien, mais devoir de pratiquer les vertus chrétiennes, toutes les vertus chrétiennes. Donc, il faut que nous ayons des heures déterminées pour la prière, le travail, le repos, parce que le repos aussi est important et fait partie de la vie humaine et nécessaire à la vie humaine. C'est pour ça que on a aussi ce repos dominical. Il faut une part de travail corporel. C'est très important parce que nous sommes corps et âme et notre corps, il faut savoir l'occuper. Sinon, on peut être dans l'oisiveté. L'oisiveté mène aux tentations et les tentations vont mener au péché. Les tâches que nous entreprenons les plus modestes, il faut les achever, être constant dans nos travaux, dans notre attitude, dans nos prières. Donc c'est aussi finalement la fidélité quotidienne et la persévérance, parce que c'est ça qui exerce notre volonté, la persévérance notamment dans les difficultés. Il faut être fidèle à nos engagements. Vous êtes marié, vous ne devez même pas imaginer divorcer, même pas le dire, même pas le penser. C'est un engagement que vous avez pris devant Dieu, c'est tout. Il y a des difficultés, oui. Mais on ne fuit pas devant les difficultés parce que c'est notre état de vie. Parce que après c'est beau d'aller dire oui à ces prêtres qui défroquent machin, mais alors oui, ce n'est pas beau effectivement, mais ça vaut absolument pour tout le monde. Et ceux qui refusent carrément l'engagement en tant que tel, c'est vrai que à un moment donné, ça pose un problème. Examen de conscience, je vous donne des petits trucs, l'examen de conscience le soir, c'est important, non seulement sur les péchés qu'on fait positivement, les mauvaises actions, mais il faut aussi s'interroger sur les omissions. On peut pécher par omission, c'est-à-dire ne pas faire ce qu'on devait faire. C'est beaucoup plus vicieux, justement, c'est là que se trouve la paresse. Elle est dans la fuite des responsabilités et dans la fuite des devoirs. Par conséquent, c'est vrai qu'il faut penser à ces péchés d'omission aussi dans l'examen de conscience. Pour finir ces longs développements, je vous remercie de votre constance dans votre attention, n'est-ce pas? Ça vous aura fait progresser contre la paresse. Il faut la demander, il faut demander cette fidélité à Dieu, cette fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. La prière est importante et la grâce de Dieu est importante par rapport à tous nos efforts. Nous devons faire des efforts d'intelligence, de volonté, des efforts sur notre sensibilité, des efforts de constance dans notre vie de prière, dans nos engagements, etc. Mais tout cela, il faut le bon Dieu derrière. L'apôtre Saint Paul, notre Seigneur le dit à Saint Paul, sans moi, notre Seigneur le dit tout simplement, mais il le dit aussi particulièrement à Saint Paul, sans moi, vous ne pouvez rien faire, c'est tout. Donc, se rattacher vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ, spécialement quand nous sommes confrontés à des difficultés de tous ordres. Voilà comment lutter contre cette paresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.